Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Bonsoir, bien-aimés. La leçon du fils prodigue, c'est le thème de ce soir. Nous lirons dans le livre de Luc, dans son 15e chapitre, nous lirons du 11e au 24e verset. Luc 15, 11 à 24. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qu'en mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je pleure de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et de souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. La leçon du fils prodigue. Le fils prodigue fait un certain nombre d'actes qui me défient. La Bible dit, un jour, il est allé vers son père. Son père avait beaucoup de biens, en tout cas suffisamment. Il est allé vers lui, lui parler. Il dit au père, « Père, mon temps de quitter ta maison est arrivé. L'heure est arrivée où il faudrait que je vole de mes propres ailes. » Autrement, il aurait dit, « Père, je commence à me sentir à l'étroit dans ta maison. Il n'y a plus d'espace. » Pour nous deux, il faut que je parte. Je dois commencer ma vie. J'ai besoin d'une autonomie. J'ai des projets dans mon esprit. J'ai des ambitions. Je dois partir. J'ai une vision qui doit éclore, qui doit exploser. Je sens que je ne m'épanouis plus dans ta maison. Il faut que je parte. Un enfant qui grandit et qui continue à se sentir à l'aise dans la maison de son père et mère, c'est qu'il y a un problème. À un moment donné, il faudrait que l'enfant qui grandit commence à éprouver et à ressentir ce malaise que d'être constamment chez papa et chez maman. J'ai eu à faire cette expérience moi-même. À un certain moment, je n'arrivais plus à supporter la gestion de mon père et de ma mère sur moi. Écoutez, ces choses-là sont naturelles. À un moment donné, il faudrait que tu quittes la maison de ton père. Ou sinon, tu deviens un problème. Mais il est étonnant de voir des grands garçons tout pleins de barbe. 30 ans et même au-delà, encore dans la maison de leur père. Moi, je disais à Dieu, Seigneur, 30 ans maximum, limite, je dois être parti. Il faut que je sois marié. Il y a des gens qui sont à l'aise. Tu as 33 ans, tu as 35 ans. Il y en a même qui vont vers la quarantaine, mais ils continuent à se sentir à l'aise dans la maison des parents. Frère, c'est anormal. Osongna, pourquoi tu attends qu'on te serve? C'est anormal. Et des fois, tu te disputes avec le jeune frère, c'est anormal. Regarde ton frère, dis-lui, c'est anormal, regarde-le. En tout cas, si c'est de toi qu'il s'agit, l'heure est arrivée, il faudrait que tu te décides de partir. Amen. Non, il y a des choses que nous ne devons plus accepter. Vous savez, très souvent, nous avons peur de sortir. Mais je veux vous dire une chose, vous vous rappelez du fleuve Jourdain, n'est-ce pas? Aussi longtemps que le sacrificateur n'avait pas posé ses pieds dans le fleuve ne se séparait pas. Bien que Dieu avait donné la promesse, il savait qu'ils allaient traverser le Jourdain. Mais le Seigneur ne pouvait rien faire aussi longtemps que le peuple ne s'était pas mis en mouvement. Dieu attend que tu... Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Dieu attend que tu te mettes en mouvement. Il faut que tu bouges. Les sacrificateurs entrent dans l'eau et c'est en ce moment-là que l'eau commence à se scinder. Si tu attends que l'eau se sépare, tu attendras longtemps. Entre dans l'eau et le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Tu as un projet de mariage, fixe des dates. Va de l'avant. Hein? Écoutez, je suis contre ces jeunes gens qui attendent tout à voir pour fixer des dates. N'attends pas. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui agit. Nous savons que le mariage est une institution divine. Alors je me lève, je dis, Seigneur, s'il est vrai que c'est toi qui as institué le mariage, s'il est vrai que l'âge est avancé et que je dois sortir de la maison de mon père et de ma mère, alors pourvois, j'irai, je sais que tu te révéleras pour moi comme le Jéhovah. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? J'irai et il se révélera comme le Jéhovah. Si tu ne vas pas, il ne se révélera pas. Il faut que tu te décides de partir. Il faut que tu te décides de commencer. Engage-toi. Enfonce-toi. Fais un mouvement. Le Père agit, nous devons agir. Amen. Si Dieu nous voit agir, alors il agit aussi. Aussi longtemps que tu attendras que le ciel s'ouvre, le ciel ne s'ouvrira pas. Il faut que tu te lèves et le Seigneur manifestera sa fidélité. Le fils prodigue a été audacieux. C'est le genre de personnes qui savent oser. As-tu une entreprise? As-tu un projet? Commence. N'attends pas que tous les moyens soient en place. Commence, bien-aimé. Nous devons être de ceux-là qui savent oser, qui savent avancer, qui savent... Écoutez, il y a de ces portes qui ne s'ouvriront jamais d'elles-mêmes. Il y a des portes qu'on bouscule. Oh. Arrête d'attendre que les choses se donnent à toi. Il faudrait que tu apprennes à bousculer les choses. Alléluia. Tu as déposé des offres d'emploi par-ci, par-là. Au fond, il y en a qu'aux autres. Non. Un matin, au bon délice, au côté de ta retraite, au côté de retraite, au bimi, au binzambe, au zananga, na zanayo, na bimi, na keville. Tu te mets à frapper dans toutes les portes où tu as déposé les CV. Et tu sais que Dieu est avec toi, tu es avec Dieu. Quand tu entres, tu déclares toute terre que foulera les plantes de mes pieds. Dieu me le donne en possession. Je prends possession de cet endroit dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, la Bible déclare ce que tu permets sur terre est permis dans les cieux. Ce que tu refuses sur terre est refusé dans les cieux. Je suis contre les frères qui continuent à attendre. J'attends le temps de Dieu, j'attends le temps. C'est quoi, c'est quand le temps de Dieu? Le temps de Dieu, c'est maintenant. C'est maintenant le temps de Dieu. Il a dit à Gédéon, avec la force que tu as, vas-y. Suis-je en train de parler à un jeune ce soir? Le fils prodigue s'est rendu compte que le temps était arrivé, il faudrait qu'il parte. L'endroit où je me trouve devient restreint, devient petit. Je ne supporte plus. Ça doit être une honte. Avec l'âge que tu as, le soir, tu rentres à la maison, il faut répéter vos yeux, colotier le cola, mais ça, non. Va chez toi, frère. Et n'attends pas tout à voir. Vas-y, Dieu sera avec toi. Je me rappelle avec mon épouse, quand on était encore fiancés, je me suis décidé d'aller chez moi. Nous n'avions rien. Je n'ai pas quitté. Je n'ai pas quitté. J'ai dit, je partirai. Mon père m'a dit, mais écoute, pourquoi tu pars? On ne te chasse pas. Vous savez, les parents ne te laisseront jamais partir. Mon père qui me dit, non, écoute, ta chambre là, tu peux la considérer comme ta maison, tu l'organises. Ça, c'est que l'esprit, frère. Hein? Chambre, ma maison. Mon père me dit, non, mais tu peux t'organiser, ta chambre, c'est... Non, je refuse cet esprit. Je lui ai dit, non, papa, le temps est arrivé, il faut que je parte. Je me suis levé, je suis parti avec le peu que j'avais. Et le Seigneur s'est mis à faire des miracles. Je n'aurai pas le temps de raconter les témoignages. Dès le premier jour où je devais entrer, j'ai eu de meubles, de premier jour. Et de choses sont allées comme ça. Parce que le Seigneur aime ces choses. Dieu aime des gens. Écoutez, est-ce que le Père a posé des questions au fils prodigue? Il ne lui a posé aucune question. Parce qu'il savait que le fils prodigue était en âge de partir. Et en droit d'avoir, de posséder son héritage. Le Père ne lui a posé aucune question. Dieu n'est pas contre que tu partes. Dieu n'est pas contre que tu inities. Alléluia. Tu dois avoir des targets, des objectifs dans ta vie. J'ai 18 ans. D'ici 3 ans, je commence déjà à me préparer. Après une année, je dois être parti. Et écoutez, quand tu as une pensée dans ton esprit, toute ta vie est conditionnée par la pensée que tu as. Je sais que dans les 3 années à venir, je dois partir de chez moi. Alors je me mets à me préparer maintenant. Même dans mes prières, Seigneur, ma limite c'était 2013. 2013 arrive, Père agit, ouvre des portes. Mais quand tu n'as aucune pensée, quand tu n'as aucune attente, quand tu n'as aucune vision, tu seras là en train d'attendre, les choses seront en train de t'attendre. Alléluia. J'aime bien cette histoire de Élie. Ma femme va me dire, mais toi tu racontes toujours cette histoire, chérie, j'aime trop ça. À Kérit, Dieu dit à Élie, va à Kérit. Moi, j'ai déjà donné l'ordre au corbeau de te nourrir à Kérit. Si Élie n'était pas parti, il allait attendre le corbeau aussi, allait attendre. Les pains allaient pourrir, la viande allait pourrir. Et il allait traiter Dieu d'infidèle. Non, Dieu n'est pas infidèle. C'est toi qui es inactif. Yondo zola la pongi. Tant qu'il fallait, oh la moukessie, coca qui osa continuer, kolala. Voilà pourquoi, si le Seigneur veut t'aider, on commencera à te mettre très mal à l'aise à la maison. Mais n'attends pas que des situations comme ça arrivent. Prends le devant, le Seigneur est avec toi. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce soir? Le fils prodigue est allé vers le père lui dire, mon temps est arrivé, I have to go. Je dois partir. Une deuxième chose que je vois dans la vie du fils prodigue, le fils prodigue est allé vers le père, il n'a pas attendu que le père lui demande quoi que ce soit. Lui, il est allé demander au père, « Père, donne-moi mon héritage. » Le problème de foi quand nous ne recevons pas, quand nous ne voyons pas, c'est tout simplement parce que nous ne savons pas demander. Dieu aime quand nous demandons et le Seigneur attend que l'on demande. Alléluia. Il y a des choses, nous devons demander à Dieu. Et si vous regardez ce qui se passe, on se rend compte qu'entre le père et le fils prodigue, il n'y a pas de barrière. Le fils prodigue a la possibilité de venir vers le père et parler au père librement. Le fils prodigue n'utilise pas des paraboles pour se faire comprendre. Le fils prodigue parle clairement. Pourquoi? Cela sous-entend une relation, une certaine affinité, une certaine liberté qu'il y a dans la relation entre le père et son fils. L'accessibilité est là. À tout moment, le fils peut aller vers le père et parler au père librement. Bien aimé, les serviteurs ont besoin d'audience pour aller vers le père. Mais nous, nous avons quitté la dimension de serviteur. Dieu a fait de nous des fils, des enfants de la maison. Frère, tu n'as pas besoin d'autorisation. Aujourd'hui, tu peux aller librement vers Dieu et lui parler parce que Dieu, c'est ton Père. Dans notre société, nous avons un problème parce que la conception de la paternité a été faussée dans nos esprits. Difficilement, vous allez voir un enfant dans notre milieu s'approcher de son père, monter sur son père, jouer avec son père. Très souvent, on n'a pas été habitué à ces choses-là. Avec les papas, on est plus proche des mamans que des papas. Les papas ne nous ont pas donné beaucoup de temps pour être avec eux. Les papas ne nous ont pas donné beaucoup d'accès auprès d'eux. Cette histoire, cette mentalité nous a affectés même dans notre esprit, inconsciemment. Ce qui fait que quand nous sommes nés de nouveau et que Dieu se révélait à nous comme étant père, nous avions rapidement cet arrière-plan qui est revenu parce qu'il s'agissait d'un père. Et cela a créé un blocage aussi même dans notre communion avec Dieu. Et vous allez trouver des enfants de Dieu qui prient en vous voyant Dieu. Oui, moi j'ai déjà vu ça. Seigneur Dieu, vous voyez, je... Oh! Mais ce n'est pas de sa faute. Il n'a jamais appris à tutoyer son père. Alors il se dit, Dieu est plus grand que mon père. Si je n'ai pas fait ça avec mon père, comment le ferai-je avec Dieu? Alors il vous voit Dieu. Et dès l'instant qu'il dit « vous », les écarts se creusent. Et Dieu reste pour lui un père lointain. Il n'y a aucune amitié entre lui et Dieu. Il n'y a aucune proximité entre... Pour lui, Dieu est un être lointain. Et lui, il se limite à se prosterner devant Dieu. Il se limite à respecter Dieu. Sa crainte vire même vers la peur. Il a peur de Dieu. Ce n'est pas de sa faute. C'est l'exemple type de la paternité qu'il a eu dans le milieu dans lequel il a évolué. C'était ça. Le père était un tyran. Le père était un être lointain que l'on devait respecter. Je suis venu nous dire qu'avec l'Esprit du Seigneur, Dieu est en train de réformer notre entendement en ce qui concerne sa paternité. Dieu est pour nous un père accessible. J'aimerais te rassurer. Écoute, Dieu aime quand tu viens dans sa présence. Dieu aime ta présence. Quand tu lui parles, le Seigneur aime ça. Le Seigneur aime de moments que tu passes dans sa présence. Il est capable de faire taire les anges pour t'entendre. Il aime ta communion. Il aime ta présence. Dieu aime passer du temps avec toi. Cela me rappelle toujours l'histoire d'Adam dans le jardin d'Éden. Chaque soir, le Seigneur descendait afin de communier avec l'homme. Dieu aimait l'homme. Dieu aimait ce moment d'échange et de partage. Il appréciait ça. Et chaque soir, le Seigneur était fidèle au rendez-vous. Et j'ai toujours imaginé, Dieu ce soir-là dit à ses anges, écoutez, j'ai un rendez-vous important. Il faut que je rencontre mon bien-aimé, celui que j'aime. Alors qu'il descendait dans les rues d'Éden, certainement que le Seigneur descendait en sifflotant parce que la joie remplissait son cœur. Il allait rencontrer son bien-aimé, celui qu'il aime, celui avec qui il aime partager, celui avec qui il aime échanger. Les choses qu'il y a dans le cœur de Dieu, il s'est plaisé à le dire à Adam. Ce projet d'avenir, qui sait, peut-être même que le Seigneur lui parlait déjà de Philadelphie en 2013. Il y aura un groupe de jeunes gens. Le Seigneur lui citait même ton nom. Le Seigneur partageait ses projets, sa vision. Tu vois la terre, je l'ai créée, je voudrais ceci. C'était des moments merveilleux et Dieu aimait parler avec l'homme. Mais la Bible déclare ce jour-là, quand Dieu quitte son trône, vient en Éden, il se rend compte qu'Adam manque à l'appel. Alors là, il se met à chercher Adam. Adam, où es-tu? Comme j'aime toujours le dire, ce n'était pas des appels du genre, Adam, où es-tu? Non, c'était un cœur qui pleurait, qui cherchait son bien-aimé. Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Adam, où es-tu? Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu te recherche dans cette intimité. Et ce soir, si tu ouvres les yeux de ton cœur, tu entendras encore ces cris d'Éden. Adam, où es-tu? Philippe, où es-tu? Françoise, où es-tu? Nelly, où es-tu? Dieu a besoin de toi et te rappelle parce que Dieu aime la communion avec toi. Le Seigneur aime ce moment. Oh, ce jour, c'était si agréable. Quand tu te levais, la première personne à qui tu avais envie de parler, c'était Dieu. Tu ne voulais parler à personne. Dès que tu te levais de ton lit, la première chose, tu te prosternais, tu répandais ton âme au devant de ton Dieu. Tu l'adorais. Et le Seigneur aimait ça. Mais plus le temps sont passés, tu as perdu ces choses. Et cela manque au cœur de Dieu. Je peux entendre le cœur de Dieu qui dit, Ken, dis-lui, ces choses me manquent. Qu'il me redonne ces choses d'autrefois. Qu'il me redonne cette intimité d'autrefois. Qu'il me redonne cette communion d'autrefois. Je le sens très fort dans mon cœur. Il y a des gens qui doivent redonner à Dieu ce temps d'autrefois. Il est pour nous un père. Quand vous regardez le fils prodigue avec son père, on sait sentir l'intimité qui régnait entre eux. Le fils était intime à son père. Voilà pourquoi il peut lui demander certaines choses librement, parce qu'il n'y a pas de barrière. Vous savez, bien aimé, l'intimité, la communion est comme ce plateforme qui soutient nos demandes. Nous pouvons demander librement sur base d'intimité. Écoute, bien-aimé, aujourd'hui, moi et le frère Trésor, supposons que nous n'avions aucune relation vraie. Et un jour, je me lève et je vais vers le frère Trésor. Frère Trésor, s'il te plaît, au cocablanga 100 dollars. Le frère Trésor va trouver ça très bizarre. Avec cet homme, je n'ai aucune relation. Je n'ai aucune intimité. Comment on s'engage? Et vous savez, bien-aimé, même que certaines demandes sont déterminées par le degré d'intimité. Il y a des choses que je peux demander à mon épouse, que mon épouse peut me demander, mais que je ne demanderai jamais à une autre femme sur cette terre. Jamais! Tout dépend du degré d'intimité que nous avons. Il y a des choses que tu ne sais demander à Dieu parce que ton intimité se limite à un certain niveau. Alléluia! Plus tu grandis dans l'intimité, plus ton cœur s'ouvre. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. J'accède vers Dieu, je lui parle d'un cœur ouvert. Et tout ce qui me passe par la tête, je le lui dis. Parce que nous avons une intimité. Nous partageons une intimité. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Dès l'instant que l'homme entre en intimité avec sa femme, il devient une seule chair. L'intimité crée quelque chose en commun qu'il partage. Ma chair n'est plus ma chair, sa chair n'est plus sa chair. Nous sommes un, nous partageons une seule chair. Nous devenons une seule chair parce que nous sommes en intimité. Désormais, nous avons des choses communes. La Bible déclare que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. De la même manière que l'homme qui s'attache à sa femme devient une seule chair. Et désormais, ils partagent dans leur intimité la même chair. Celui qui s'attache à Dieu, au Seigneur, devient avec lui un même esprit. Et ils partagent un même esprit. Ils ont quelque chose en commun. Et tout ce qu'ils font se base sur cette communauté qu'ils ont, c'est-à-dire l'esprit. Oh, tu ne me suis pas. Et si vous lisez ce passage, laissez-moi vous donner ce passage afin que nous puissions évoluer de la même manière, nous deux. Ephésiens 5, 31, 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il dit même, écoutez au verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Jesus. Et 1 Corinthiens 6, 16 à 17 rend les choses beaucoup plus claires. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Notre intimité avec Dieu fait que nous puissions partager quelque chose en commun, c'est l'esprit. Alléluia. Si vous lisez ce texte, l'esprit ne commence pas avec un E majuscule. L'esprit commence avec un E minuscule. Cela veut dire, avec Dieu, le jour où j'entre en intimité avec lui, nous partageons un même esprit, E minuscule. Nous partageons un même monde. Nous partageons désormais des mêmes réalités. Nous vivons dans des mêmes sphères. Nous avons des choses en commun. Nous partageons désormais une même vision. Nous avons désormais une même manière de faire les choses. Nous avons désormais une même manière de concevoir les choses. Nous pensons de la même manière. Nous nous dirigeons dans la même direction. Nous nous orientons vers les mêmes choses. Nous avons les mêmes attractions, les mêmes attirances. Nous avons les mêmes goûts. Nous avons les mêmes préférences. Nous partageons les mêmes mondes. Nous partageons les mêmes esprits. Alléluia. La Bible dit que nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Alléluia. Plus je m'approche de Dieu, plus Dieu s'imprègne sur moi, son caractère s'imprègne sur mon caractère, sa personnalité s'imprègne sur ma personnalité, et tel il est, tel je. Je deviens. Pourquoi? La communion fait que nous partageons des choses en commun. Et voilà pourquoi nous allons lire cela tout à l'heure à la tombe de Lazare. Le Seigneur Jésus-Christ commence par dire: Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi, mais pour eux. Parce que moi, je sais que tu m'exauces toujours. C'est tout à fait normal. Écoutez, Dieu n'accorde ou n'accède à tes demandes que dans la mesure où tu lui demandes quelque chose qu'il avait déjà prévu de te donner. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le Seigneur ne répondra, n'exaucera ta prière que dans la mesure où ta prière se conforme à sa volonté sur toi. Si tu demandes quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu pour toi, tu ne l'obtiendras pas. Et quand on partage l'intimité avec le Père, on anticipe le cœur de Dieu. On connaît la pensée de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'Esprit de Dieu, qui sonde tout, nous aide dans nos faiblesses. Quand nous prions par des soupirs inexprimables, il intercède pour nous à Dieu. Parce que nous ne savons pas ce qui nous est convenable de demander. L'Esprit nous aide. Pourquoi? Parce que l'Esprit sonde le cœur de Dieu. L'Esprit va dans le cœur de Dieu vérifier ce que Dieu a en réserve pour moi. Par des soupirs inexprimables, il vient, il fait cette prière en moi, pour moi, à ma faveur, mais vers Dieu. Il sonde le cœur de Dieu, il connaît la pensée de Dieu et il oriente mes prières conformément aux pensées qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et l'intimité fait que je connaisse le cœur de Dieu. L'intimité fait que je connaisse la pensée de Dieu. Et mes prières, je les fais sur base de notre intimité. C'est-à-dire, je sens le cœur de Dieu. Je connais le mouvement de Dieu. Je connais les valeurs de Dieu. Je connais les intérêts de Dieu. Je connais les attentes de Dieu. Quand je prie sur base de ces choses. Puisque je touche Dieu dans ses intérêts, Dieu se révèle et il m'exauce parce que je le rencontre dans l'intimité. Des fois, quand on grandit dans l'intimité avec le Seigneur, non seulement que nous connaissons son cœur par l'esprit que nous partageons, qui sont de tout, même les profondeurs du cœur de Dieu, des fois, le Seigneur dans l'intimité me sonde. Et nous évoluons dans ce que j'appelle le principe de l'anticipation. Il y a des choses que je pense que je ne demande pas que Dieu me l'accorde parce que Dieu dans l'intimité connaît mon cœur. Il y a des choses que Dieu ne me demande pas mais que je le lui accorde parce que je sens de la pensée de Dieu et je connais son esprit. David a touché le cœur de Dieu quand tu lui as proposé de lui construire un temple. Salomon a touché le cœur de Dieu quand tu lui as demandé la sagesse. Ce n'est pas des choses que Dieu est venu leur donner. Mais ils ont sondé le cœur de Dieu. Ils lui ont demandé des choses qu'il avait dans son cœur pour eux. Et le Seigneur leur a donné. À chaque fois que tu demandes quelque chose, selon l'inspiration de l'Esprit sur base de l'intimité que tu partages avec Dieu, Dieu va plus loin. Il dit à Salomon, je ne te donnerai pas seulement la sagesse, mais en plus de la sagesse, voici ce que je rajouterai. Le comble, c'est que puisque tu ne connais pas, tu ne vis pas, tu ne partages pas l'intimité du Père, tu demandes des choses que Dieu devrait ajouter. Et le Seigneur ne t'exauce pas. Le Seigneur attend que tu demandes la clé qui ouvre les portes. Il y a des prières qui sont pour nous comme des clés, qui ouvrent plusieurs portes ou qui donnent l'ouverture à plusieurs accès. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce soir? tu fais cette demande, non seulement que Dieu te donne ce dont tu as besoin, mais il te donne plusieurs autres choses qui viennent après. Voilà pourquoi nous devons apprendre à sonder le cœur de Dieu et à faire des prières sur base de la pensée de Dieu que l'Esprit nous révèle. Amen. Et tu n'épouseras pas n'importe qui. Au combat, la moutonnion sautée. Tu n'embrasseras pas n'importe quel genre d'études. Tu ne t'engageras pas dans n'importe quel projet. Tu ne te feras pas ami avec n'importe qui. Non, parce que tu connais la pensée de Dieu pour ta vie. Et ta vie reflète la pensée du cœur de Dieu. Ce que je demande, ce que je fais, le choix que je fais, les décisions que je fais, c'est sur base de la pensée qu'il y a dans le cœur de Dieu. La Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Quand tu entres en intimité et en communion avec Dieu, le Seigneur trace ses voies dans ton cœur. Une autre version dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu place dans leur cœur des pensées et des désirs qu'ils doivent avoir. Et quand tu te mets à prier, tu pries sur base des désirs et des pensées que Dieu a préalablement mis dans ton cœur. Des fois même tu ne le sais pas. Mais ce moment précieux d'intimité que tu partages dans l'adoration, dans la prière, tu passes des heures. Des fois tu pries en langue. Tu ne sais pas ce que tu dis, mais tu pries en langue. Des fois tu pries tellement en langue que les larmes coulent de tes yeux. Tu ne sais pas pourquoi je pleure. Tu ne te rends pas compte. Mais pendant que tu es en train de le faire, le Seigneur est en train de changer ton corps. Le Seigneur est en train de régénérer ton esprit. Le Seigneur est en train de renouveler ton entendement. Le Seigneur est en train de placer dans ton cœur des pensées et des désirs que tu dois avoir, non conformément à tes convoitises et à tes passions, mais conformément à la volonté de Dieu pour toi, pour ta destinée. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Le Fils vivait en intimité avec le Père. Psaume 139, 1 à 4 dit: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais et tu la connais entièrement. Dieu anticipe et tu anticipes. Pourquoi? Parce que vous partagez l'intimité et la communion avec lui. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? À ce niveau, permettez-moi de faire ces déclarations sur toi et sur ta vie. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare qu'à partir de cette convention, tu entres désormais dans une nouvelle dimension, dans ta communion avec le Père. Je le déclare dans le nom de Jésus. Ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Tu prieras différemment. Tu prieras sous l'inspiration de l'Esprit. Tu parleras au Père et le Père exaucera. Parce qu'en toi règne l'Esprit du Fils. Et le Fils demande selon le Père. Cela sera ton partage, je le dis dans le nom de Jésus. À partir de cette convention, ta vie ne sera plus jamais la même à cause de cette nouvelle dimension d'intimité dans laquelle tu entres au nom de Jésus. Tes prières seront désormais des prières efficaces. Je proclame et je déclare maintenant même une grande et une forte soif de Dieu est en train de naître dans ton cœur. Cela va te consumer au-dedans de toi. Cela va te brûler au-dedans de toi. La soif va grandir. La soif de Dieu va augmenter dans ton cœur. Cela te consumera au-dedans de toi. Et ça sera si intense que tu ne pourras le supporter jusqu'à ce que tu passes du temps dans sa présence. Je déclare l'intimité, 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 que l'esprit de l'intimité, que l'esprit de la communion, que l'esprit du Père nous saisisse en ce soir. In the name of Jesus. Permettez-moi que j'évolue. Jesus. Veut que tu demandes. Le Père aime que tu demandes. La Bible nous enseigne quand dans Jean 16, 24, Dieu lui-même dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Après avoir connu la pensée de Dieu par l'intimité, frère, nous devons demander ces choses à Dieu. Dieu veut que tu puisses vivre dans une joie, mais une joie parfaite. Je suis contre ce christianisme qui nous enseigne la pauvreté, qui nous enseigne la médiocrité, qui nous enseigne le contentement dans un certain sens. Non, non, Dieu veut ma joie et ma joie totale, ma joie parfaite, ma joie complète. Dieu veut que je vive dans la paix, Dieu veut que je vive dans la joie. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais que d'adorer Dieu dans une chambre bien climatisée. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'avoir un véhicule en bon état quand tu démarres comme vroom. Y a pas de... ce n'est pas... Dieu n'est pas contre ces choses. Ce n'est pas mauvais que tu envoies tes enfants dans des bonnes écoles. Dieu n'est pas... Dieu aime ces choses. Il le désire. Oh Jesus. Dieu le désire pour toi. Voilà pourquoi lui-même, dans le livre des psaumes, le chapitre 2, le verset 8, il dit, demande-moi, je te donnerai quoi? Des nations pour l'héritage, des extrémités de la terre pour possession. Je suis étonné des fois, le genre de choses que nous demandons à Dieu. Bien-aimé, l'heure est arrivée où le Seigneur doit étendre nos visions, que Dieu étende nos limites. Alléluia. Car même nos demandes définissent notre vision de nous-mêmes. Il y a des choses que je ne peux demander parce que je connais la vision de Dieu pour ma vie. Je connais les attentes de Dieu pour ma vie. Élisée se retrouve en face de Élie. Élie sur le point de partir. Il dit à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Demande-moi ce que tu veux. Élisée le regarde. Il lui dit, je veux la double portion. Il lui dit, tu me demandes une chose difficile, nous allons revenir tout à l'heure. Mais il dit, si tu me regardes, si tu me vois quand je serai en train d'être enlevé, cela te sera accordé. Il dit, donne-moi une double portion. Quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, la double portion, la portion double était une part qui était réservée au premier-né. Cela veut dire que quand Élisée demande la double portion, la portion double, il est en train de regarder Élie en face. Et il déclare ce qu'il est. Il proclame ce qu'il est. Élie, je suis le premier-né. Je suis celui sur qui le choix de Dieu est tombé. Ce n'est pas les autres fils de prophètes que Dieu a choisis pour te succéder. C'est sur moi que le choix de Dieu est tombé. Étant fils de Dieu, je dois à la double portion. C'est parce qu'il connaissait la pensée de Dieu qu'il a demandé la double portion. Il aurait pu demander autre chose. Connais la pensée de Dieu sur ta vie, tu demanderas des choses justes. Tu ne vas pas passer ton temps à demander des petites choses. Non! Élisée connaissait qui il était. Le genre d'homme que je suis, il y a des demandes que je ne peux pas faire. Il y a des choses que tu n'accepteras pas sur toi-même si tu connais qui tu es. Il y a des choses que tu acceptes seulement parce qu'osokomiyebate. Il y a des choses que tu tolères. Tu tolères que des jeunes garçons dans des coins de rue te touchent n'importe comment. Basim, basim, tu ne sais pas qui tu es. Oh, le jour où on est venu dire à Élie, il faut tika kotonga, il faut kima. Il a regardé ces gens, il leur a dit, un homme comme moi prendre la fuite. Je sais qui je suis, je sais qui vit en moi, je connais les promesses de Dieu sur ma vie, je connais ma destinée. La connaissance que tu as de toi-même va changer ta façon de vivre et de marcher. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de l'Éternel. Je t'ordonne de reculer de ma vie dans le nom de Jésus. La maladie entre dans ta maison, tu te lèves, tu dis, je sers le Seigneur. Selon qu'il est écrit, tu me serviras et je loignerai la maladie de ta maison. Maladie, je t'ordonne. Oh, Jesus. Est-ce que tu connais qui tu es? Tu es un fils. Tu es un fils. Tu es un fils. Tu es le fils du Dieu très haut. Il y a des choses que tu ne peux faire. Il y a des choses que tu ne peux permettre aux gens de te faire. Parce que nous sommes en train de te faire certains genres de choses. Ce n'est plus le temps. Cette saison est passée. Tu as reçu la révélation du fils. Car tu es un fils. Oh Jesus, suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Élisée connaissait qui il était. Et il a fait une demande proportionnelle. Je sais que Dieu a dit que je bénirai l'œuvre de tes mains. Quand je fais une œuvre, quand je commence une entreprise, j'attends voir la matérialisation de la bénédiction de Dieu, car c'est une promesse qui plane sur moi. Et tout résultat contraire, je le réfute, je le refuse, parce que je sais que la bénédiction de Dieu est sur moi, la faveur de Dieu est sur moi. Quand je touche une chose, la chose est bénite. Quand je commence une entreprise, l'entreprise prospère, parce que Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Ma boko na ngaza ko pambo la main. Mutumuka ningsa ma boko boy. Ma boko na eza ko pambo la main. Mes mains sont des mains bénies. Ce que je touche est béni. Ce que je touche est ce que je touche. Oh Jesus. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Je ne peux pas accepter Nabani projet aussi mbatté. Je rentre vers le Père. Je dis, Père, en qualité du Fils, je reviens vers toi, car je reconnais cette parole que tu as sortie de ta bouche en ce qui me concerne. Tu as dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je t'ordonne, entreprise prospère, projet prospère, commerce prospère, parce que j'ai la faveur de Dieu. Écoutez, le problème, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu dit, il dit. Quand Dieu ordonne, il ordonne. Personne ne peut contredire ce que Dieu dit. Personne ne peut bloquer l'ordre de Dieu. Quand il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains, la bénédiction de Dieu plane sur moi. Et quand je ne vois pas les résultats, je ne parle pas à Dieu, je parle à la chose. La bénédiction de Dieu qui est sur moi ne me permet pas d'accepter ce genre de résultats. À partir d'aujourd'hui, tu te transformes, tu es prospère, tu es fructueux, tu vas de l'avant, tu prospères. Au nom de Jésus, laissez-moi faire sur vous certaines déclarations. In the name of Jesus, je proclame à partir de cette convention, tout ce que ta main touchera sera béni dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare la faveur de Dieu sur toi, la bénédiction de l'Éternel sur toi, celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tes entreprises vont prospérer, tes études vont prospérer, tes projets vont prospérer. Dans le nom de Jésus, je le proclame et je le déclare, parce que tu es un fils, tu es un fils, tu es un fils, tu es un fils, tu vivras. Tu vivras ta condition de fils. Dans le spirituel, tu vivras comme un fils. Dans le matériel, tu vivras comme un fils. Dans les finances, tu vivras comme un fils. Dans le spirituel, tu vivras comme un fils. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car tu es un fils. La maladie viendra, mais elle ne t'atteindra pas, car tu es un fils. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, car tu es un fils. Oh, je proclame et je déclare. Shandobo Shata. Je le proclame sur toi. In Jesus. Nous pouvons nous asseoir. Reprenons nos places. Tu as droit à l'héritage des aînés. Il est convenable que ce chose que je suis en train de dire, que tu puisses le faire asseoir sur base des Saintes Écritures. Lis avec moi Nombre, le chapitre 3. Afin que tu ne sois pas ballotté. Nombre 3, 12 à 13. La Bible déclare. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les préménés. Les préménés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, et ils m'appartiendront. Maintenant, écoutez. Hébreux 12, 22 à 23. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment les cœurs d'anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux. Le jour où Israël sort de l'Égypte, Dieu l'a franchi par cette puissante acte de rédemption. Il frappe les premiers-nés. Mais il dit à Israël, à cause du sang que vous mettrez sur les linteaux de vos portes, vos préménés ne mourront pas. Et quand Israël sort, Dieu leur dit, à cause du rachat que je fais de tous les préménés, désormais, tous les préménés, que ce soit les préménés des hommes comme les préménés des animaux, puisque je les ai rachetés, les préménés seront ma propriété. Un peu plus tard, quand Moïse institue le sacerdoce avec Aaron, il dit à Moïse, désormais, je vous restitue vos préménés. Mais vous allez me donner la tribu de Lévi. Les Lévi vont remplacer les préménés. Au lieu d'avoir les préménés, donnez-moi les Lévi qui vont remplacer les préménés. Désormais, les Lévi constitueront pour moi l'assemblée des préménés. Si je veux parler au peuple, je passerai par les Lévi. Si je veux agir au peuple, je parlerai par les Lévi. Si le peuple veut m'atteindre, il m'atteint par les Lévi. Voilà pourquoi les sacrificateurs sortaient des Lévi. Celui qui entrait dans le Saint des Saints pour parler à Dieu en faveur du peuple et pour recevoir de Dieu pour le peuple, c'était un Lévi. Parce que Dieu a donné le sacerdoce, le ministère aux Lévites. Pourquoi les Lévites ont remplacé les premiers-nés, la propriété de Dieu? Dans la nouvelle alliance, Dieu fait de l'église cette assemblée de premiers-nés. Bien-aimés, nous constituons les premiers-nés. Nous sommes les premiers-nés de l'Éternel dans la nouvelle alliance. Nous constituons cette assemblée de premiers-nés. Alléluia. La responsabilité spirituelle du monde, le Seigneur les pose sur nos épaules parce que nous sommes des premiers-nés. Puisque nous sommes les premiers-nés, nous avons donc droit à l'héritage. Oh, Jesus. Nous avons droit à l'héritage des premiers-nés. Bien-aimé, désormais, fais comme Élisée. Quand les autres seront en train de demander une portion, toi demande une double portion. Parce que tu es le premier-né. Tu fais partie de l'assemblée des premiers-nés. Je ne fais pas des demandes comme tout le monde. Je n'attends pas de Dieu comme tout le monde. Vu ce que je suis, vu ce que Dieu fait de moi, il y a un certain genre de choses que j'attends de Dieu. Il y a un certain type de demandes que je demande à Dieu. Quand tout le monde se contente de miettes, moi je dis la double portion. Quand tout le monde se contente de rien, moi je dis, Seigneur, la double portion. J'ai droit et tu as droit en ta qualité de fils de la portion de premier-né. Je prie que l'entendement de quelqu'un change à partir de ce soir. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare, en vertu de toutes ces choses que nous venons de mentionner, le Père a accédé à la demande du Fils prodigue. Il lui a donné sa part de l'héritage. Mais la Bible dit, jusque-là, il n'y avait aucun problème, voyez-vous. Il avait droit à cela. Mais le problème est venu dans la gestion de l'héritage. Que Dieu te bénisse, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est comment tu vas gérer ce que Dieu te donne. Je suis en train de croire que dans cette assemblée ce soir, Dieu a rassemblé comme une des élites de vainqueurs, de gens à qui il va donner de très grandes responsabilités demain dans cette nation. Ah bien aimé, si tu veux, écris ça quelque part. Tu vas le voir dans les années à venir, tu vas vivre ce chose. Dieu va élever plusieurs au milieu de nous en des postes de responsabilité. Écoutez, je te donne un signe. Tu vas te rendre compte, si tu ne te rends pas déjà compte, tu vas te rendre compte que dans ta vie, les portes des fois s'ouvrent un peu comme facilement. Quand pour des choses, ça coince, toi, le Seigneur s'arrange toujours pour que tu perces. Cela est tout simplement pour te dire à quoi tu es destiné. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie et tu vas le voir. Dans les années à venir, tu vas témoigner de cela. Voilà pourquoi maintenant Dieu m'envoie te dire, le problème ce n'est pas ce que Dieu va te donner, le problème c'est comment vas-tu gérer ce que Dieu va te donner. Comment vas-tu gérer les responsabilités que Dieu va te donner? Le Seigneur va mettre entre tes mains une grande puissance, même dans le domaine des finances. Mais la question, c'est comment vas-tu gérer cela? Déjà maintenant, comment gères-tu ce que tu as? Quand tu te regardes sur le plan physique, pour ne parler que de ça, pour ne descendre qu'à ce niveau-là, comment gères-tu ta beauté quand tu te regardes, belle fille, ravissante, avec une belle taille? Comment gères-tu ce que Dieu te donne? Le problème, ce n'est pas que Dieu te donne. Le problème, c'est comment gères-tu ce que Dieu te donne. Ou comment vas-tu gérer demain ce que Dieu va te donner. Je voudrais que ce soit que nous puissions ensemble être comme vaccinés. Seigneur, demain quand tu me donneras, je veux être fidèle. La Bible nous parle dans les livres de rois. Dans les livres Le Roi, la Bible nous parle de cet homme, Jéroboam. Jéroboam est entré dans l'histoire à un moment où personne ne pouvait attendre quoi que ce soit de lui. C'était un cheval non partant. Dans 2 Rois, le chapitre 2, la Bible déclare, quand Dieu a destitué Roboam à cause du péché de son père Salomon, Dieu s'est choisi Jéroboam. Jéroboam n'était pas éligible. Il n'y avait pas du sang royal dans ses veines. Il n'était pas connu en Israël. Il ne pouvait pas devenir roi. Mais Dieu est venu vers lui. Jéroboam n'est pas allé vers Dieu. Dieu est venu vers Jéroboam. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que tu n'as pas demandé que Dieu va t'accorder. Il y a des faveurs que tu n'attendais pas que le Seigneur va t'accorder. Dieu vient vers Jéroboam, il lui dit, je ferai de toi roi. Je te donnerai la gestion, la royauté en Israël. Quelques temps plus tard, quelques années plus tard, il est devenu roi. Il s'est assis sur le trône en Israël. Mais la Bible déclare, à un moment donné, puisque le peuple était habitué à monter à Jérusalem pour adorer Dieu, parce qu'en ce moment-là, le royaume était scindé en deux. Le royaume du nord, qui avait comme capitale Samarie, avec 10 tribus qui étaient sous la gestion de Roboam, et le royaume du sud, qui avait comme capitale Jérusalem, où tout le peuple adorait Dieu, parce que c'est là que Dieu avait donné l'ordre qu'on l'adore, et qui avait comme roi Roboam le fils de Salomon, encore que Dieu lui a dit, je pouvais bien t'arracher tout le royaume, mais à cause de ma fidélité pour mon fils David, je veux te garder 2 tribus. La Bible déclare que Jéroboam, quand il a regardé le mouvement du peuple qui chaque année quittait le nord vers le sud pour aller adorer Dieu à Jérusalem, il s'est dit en lui-même, ce peuple qui chaque année monte à Jérusalem pour adorer Dieu va finir par retourner vers son roi Roboam. Parce que ce Roboam qui était de la lignée de David, lui n'était pas de la lignée de David. C'était comme une improvisation. J'aime quand des fois Dieu improvise dans nos vies de choses qui n'étaient pas réglementées. Mais il n'a pas su gérer la bénédiction de Dieu. La Bible dit quand il a vu ces flux chaque année vers Jérusalem, il a eu peur dans son cœur. Il s'est dit, ce peuple certainement qui va retourner à son ancien amour, à Roboam. Qu'est-ce que je vais faire? Il a demandé qu'on lui fasse 2 veaux d'or. Il a fait 2 veaux d'or. Il a pris plutôt un veau d'or qu'il a placé toujours dans le royaume du nord, là où il était roi. Un de veaux d'or, il a placé à Bethel. Et l'autre veau d'or, il a placé à Dan. Bien aimé, Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Bethel, l'endroit qui est supposé être l'endroit où l'on rencontre Dieu. Il fait de cela un endroit où on adore les idoles. Et l'autre veau, il le place à Dan. Dan veut dire justice de Dieu. Lui qui était censé manifester la justice de Dieu, il prend le veau. Bien aimé, voilà des fois comment nous ne savons pas préserver et gérer l'héritage que Dieu nous accorde. Dieu donne des choses, des valeurs que tu les hypothèques à cause des bêtises, à cause des banalités. Un prof qui vient te proposer de coucher avec lui pour quelques points, pour une délibération, te voilà hypothéquer cette précieuse et glorieuse destinée que Dieu a rattachée à ta vie. Oh, Jesus. Arrête ces choses. Il est temps que tu te rendes compte de qui tu es. Tu ne peux acheter le point, non. Pourquoi? Tu as peur d'un prof, tu as peur d'un examen, tu as peur d'une session. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme pour te lever au plus haut degré de la société. Non! La Bible dit qu'il prend de la poussière et il fait asseoir parmi le grand. Le Seigneur n'est pas impressionné par ces choses-là, non. Écoutez, Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne, même ce prof, même cet assistant, il ne peut fermer la porte que Dieu a eu à ouvrir dans ma vie. Des choses précieuses, mais que l'on hypothèque à cause des futilités. La Bible dit, il a pris ses veaux d'or, il a placé à Dan et à Bethel. Et il a perdu la royauté. Parce que Dieu s'est retiré. Et quand Dieu se retire, il retire également sa faveur. La gestion. Comment vas-tu gérer ce que Dieu te donne? Jéroboam, Dieu lui donne. Et l'erreur qu'il commet, au lieu de s'attacher à Dieu. Parce qu'écoute, tout ce que Dieu te donne à genoux, tu le conserveras à genoux. Aux yeux, on a ma bonne délire. Pour ne pas gérer, pour ne pas battre l'ango, tu veux commencer à te débrouiller par toi-même. Non. Si la chose est venue de Dieu, Dieu est suffisamment responsable pour le protéger. Alléluia. Ce que Dieu m'a donné, c'est à moi. Si l'ennemi veut me le prendre, le Seigneur se levera pour protéger mon héritage. Tu l'as reçu de Dieu, Jéroboam. Comment veux-tu aller vers les idoles pour que les idoles... Les idoles n'ont pas été capables de te donner la royauté. Et tu penses qu'ils vont le protéger. Retourne vers celui qui te l'a donné. Il saura le protéger. Le jour où l'un des fils de David, Absalom, se révolte, la Bible déclare que David se retire du trône. Il se retire du royaume. Il dit, si Dieu l'a choisi, alors qu'il se mette sur le trône. Mais si Dieu pense que c'est moi qui suis son oint, alors je sais que le Seigneur me ramènera. Dieu l'a ramené. David savait que celui qui m'a donné la royauté, David n'avait pas demandé la royauté. Il était derrière les brebis en train de paître le troupeau de son père. Samuel est venu vers lui. Il l'a oint. Il lui a donné quelque chose qu'il n'avait pas demandé. Et quand les choses se sont compliquées, il est retourné vers Dieu. Si c'est Dieu qui m'a donné le royaume, la royauté, alors le Seigneur me fera rasseoir sur le trône. Jesus. Dieu sait protéger et préserver ce qu'il te donne. Mais Jéroboam s'est attaché aux choses que Dieu donne au lieu de s'attacher au Dieu qui donne les choses. J'aimerais refaire cette illustration que j'ai déjà fait une fois ici. Non, toi tu es comme le responsable. Frère, viens. Viens mon frère. Ma soeur, come here. Frère, ça c'est quoi l'huile d'onction? Oh, toi tu as l'onction, sois devant. Toi tu vas représenter Dieu. Tu n'es pas Dieu, frère. Tu représentes. Tourne-toi vers lui. Toi, tu es la bénédiction, les faveurs de Dieu, les grâces de Dieu, les bontés de Dieu. Tu représentes ces choses. Alors, à chaque fois, donne ta main. À chaque fois que je suis Dieu, les faveurs de Dieu me suivent. Les bontés de Dieu me suivent. Les bénédictions de Dieu me suivent. Mais le jour où j'arrête de suivre Dieu et que je me mets à suivre les bénédictions de Dieu, les faveurs, les grâces, les choses que Dieu donne, Dieu lui ne me suit pas. Et puisque Dieu n'est pas avec moi, même le monde ne saura plus m'obéir. Parce que toutes choses ont été créées sur base de la parole. La parole est cette matière première qui a créé toutes choses. Toutes choses dans l'univers obéit à la parole parce qu'il reconnaît en lui sa source. Si Dieu est avec moi, tout m'obéit parce que Dieu est avec moi. Et Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Il ne nous a jamais dit de suivre la bénédiction. Non! Et Jéroboam s'attache aux choses de Dieu au lieu de s'attacher au Dieu qui donne. Les choses. Bien-aimé, je voudrais te dire que le jour où tu seras sur le haut sommet de la montagne de la gloire, reste attaché à Dieu. Le jour où le Seigneur te fera passer par les bas-fonds de la vallée, reste attaché à Dieu. Je prie que le Seigneur nous suscite aujourd'hui une catégorie d'hommes et de femmes qui ne s'attachent pas à Dieu sur base de ce que Dieu donne, sur base de ce que Dieu fait. Non, je m'accroche à Dieu qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Quand le Seigneur me bénit, je m'accroche à lui. Et quand il ne me bénira pas, je m'accrocherai à lui. Quand le temps soit dur, quand le temps soit favorable, quand les portes s'ouvrent, quand les portes se ferment, je veux rester attaché et accroché à Dieu. Notre communion avec Dieu ne dépend pas de la bénédiction de Dieu. Seigneur, je veux rester fidèle. Si tu choisis de me bénir, je te servirai. Mais si la bénédiction tarde à venir, je te servirai. Je veux servir Dieu. Je veux m'accrocher à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que la session n'a pas tenu que tu vas retourner dans le monde. On est ensemble, on a tiqué dans l'œil. Non, frère, c'est que tu ne connais pas ce que tu fais. Ta communion avec Dieu va bien au-delà de la session, va bien au-delà des résultats, va bien au-delà du mariage, va bien au-delà du voyage. Ça va bien au-delà. Ma communion avec Dieu, elle est bien plus forte et bien plus précieuse que toutes ces choses. Je sais dans mon cœur que si Dieu ne me donne pas aujourd'hui, dans sa fidélité, demain il me donnera. Alors je persévère, car je sais que mon rédempteur est vivant. Il se levera. La gestion de l'héritage Le fils prodigue a mal géré son héritage. La Bible déclare qu'un jour, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Alors il s'est dit dans son cœur, je me leverai, je retournerai vers mon père. Ce que j'aime, c'est que cet homme ne s'est pas arrêté à dire que je me leverai, je retournerai. Il a dépassé le stade de la déclaration et de la pensée. La Bible déclare qu'il s'est levé et il s'est mis en route vers son père. Bien-aimé, le problème avec toi, c'est que même quand tu prends des décisions, tu te rends compte de certaines choses que le Seigneur ne veut plus voir dans ta vie. Tu connais cela. Même au moment où je suis en train de parler, dans ton cœur, tu te répasses ces choses. Et il est arrivé plusieurs fois que dans des réunions comme celle-ci, que tu prennes des décisions. Mais le problème, c'est que tu te limites aux résolutions. Tu n'entres pas en action. La différence entre Ruth et Orpa, quand Naomi leur a dit de ne pas la suivre, de rester, la Bible dit que les deux se sont mis à pleurer amèrement. Ruth, Naomi a insisté, restez, ne venez pas avec moi. Restez. Elles ont encore pleuré. Naomi a encore insisté. Finalement, Orpa, après avoir pleuré, elle a embrassé sa belle-mère et elle est partie. Ruth, après avoir pleuré, elle a regardé sa belle-mère, elle dit, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, je mourrai aussi. Bien-aimé, le problème c'est qu'aujourd'hui, plusieurs pleurent. Même quand on fait l'appel, ils pleurent. Mais quand il faut prendre la décision de faire le pas, ils pleurent, mais ils restent dans la même chose. Tu restes avec cette petite amie, tu continues à coucher avec lui, tu continues à tricher à l'école, tu continues à faire ces choses que Dieu te demande de ne pas faire. Et tu viens à l'église, on prêche, tu pleures et tu pleures encore. Mais quand tu retournes, non, l'heure est arrivée où non seulement que nous devons pleurer, mais nous devons effectivement rentrer vers la maison du Père. Oh, cette nuit, ce soir sera le dernier soir où tu vas pleurer en ce qui concerne le péché. Je te le déclare dans le nom de Jésus. Ce soir, non seulement que tu vas pleurer, mais tu vas sentir une chaîne en train de se briser autour de toi. Et Dieu va t'accorder une délivrance. Ce soir, nous allons briser ces cycles. Tu retombes, tu te relèves. Tu retombes dans la même chose. Aujourd'hui, ce cycle sera brisé dans le nom de Jésus. Parce que Dieu t'appelle à une destinée glorieuse. Tu es un fils. Il a dit, je retournerai. Ce que j'aime, c'est que quand il retourne, le Père qui le voit, le Père vient vers lui et le Père l'embrasse. Le Père ne lui demande pas de compte quant à l'héritage qu'il a dilapidé. Le Père ne lui fait pas un procès. Le Père ne mentionne pas ses erreurs. Le Père le reçoit. Le Père l'accueille. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour enterrer le mort. Il est venu pour ressusciter le mort. La Bible déclare, je n'éteindrai point la mèche qui fume. Je ne briserai point le roseau cassé. Car il est venu afin de redonner la flamme aux mèches qui fument, afin de redresser le roseau cassé. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face. S'il s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous le pardonner. Je suis venu nous parler d'un Père qui pardonne. Le Seigneur, ce soir, il va te pardonner. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu es devenu. Quand le Fils revenait et que le Père le regardait, le Père ne regardait pas le Fils dans son état actuel. Le Père regardait le Fils dans ce qu'il allait devenir dans quelques jours à venir. Alléluia. Dieu ne te regarde pas dans ton état actuel, malgré tes faiblesses, malgré le nombre d'avortements que tu as déjà commis, malgré le nombre de choses abominables. Tu ne peux même pas en parler. Il y a du reste de choses que tu as eu à commettre que tu n'as jamais dit à personne. Il y a quelqu'un ici qui est tombé dans l'inceste, qui n'a jamais dit cela à personne. Dieu dit, même ça, si tu viens, je veux te pardonner. Et quand il pardonne, il jette nos péchés dans un océan d'oubli. Les pères ne s'en rappellent plus. C'est fini. Ce soir, Dieu veut te guérir de ton péché. Dieu veut te guérir. Alléluia. Le Seigneur ne te condamne pas. Il dit, viens, je suis prêt à te pardonner. Est-ce que l'on tombe sans se relever, nous dit le prophète Jérémie. Tu es tombé, c'est vrai, mais il est temps que tu te relèves. Reviens, fais comme le fils prodigue. Reviens, j'ai besoin de toi. Ta présence me manque. Tes jours d'autrefois te manquent. Je suis prêt à fermer les yeux, à oublier ce que tu as fait, ce que tu es devenu. J'ai besoin d'une seule chose. Ta présence, mon fils, ma fille. Reviens. Reviens. Reviens, 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 reviens. Peut-être le problème ce n'est pas Dieu. Ah oui, le problème ce n'est peut-être pas Dieu. Le problème c'est peut-être toi-même. Tu as fait un certain nombre de choses et aujourd'hui tu es incapable de te pardonner. Dieu t'a pardonné, Dieu te pardonne, mais le problème c'est que toi-même tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à te pardonner. Cette chose que tu as fait est restée tellement gravée dans ton esprit que tu n'arrives pas à l'oublier. Et même quand tu te repens, le lendemain tu reviens à la même repentance parce que la chose est encore présente. Dieu m'a envoyé te dire ce soir, je t'ai pardonné, pardonne-toi toi-même aussi. Le fils prodigue est revenu, le père l'a accueilli. Le père ne regarde pas ce que tu as fait, ni l'état dans lequel tu es. Mais quand le père te regarde, le Père est en train de voir cet investissement qu'il a placé en toi. Le Père est en train de voir cet homme brillant que tu deviendras demain. Le Seigneur est en train de voir en toi cette femme de distinction, cette femme de valeur que tu deviendras demain. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Ton passé ne change pas la vie de Dieu sur toi. Le Seigneur t'aime encore. Le Seigneur te choisit encore. Le Seigneur te veut encore. Il veut encore de toi comme son coéquipier. Le Seigneur veut encore de toi. Il m'a envoyé ce soir pour te dire, oui, je veux encore de toi. Malgré ce que tu es devenu, je veux encore de toi. J'aimerais maintenant qu'un fils prodigue se lève et qu'il court ici devant parce que Dieu l'attend. Cours, cours, cours. Dieu dit, je veux de toi. Je veux encore de toi. Je t'aime. Et je ne t'ai pas rejeté. Peu importe ce que tu as fait, je t'aime encore. Je t'aime. Peux-tu entendre la voix de Dieu qui crie ce soir? Je te veux, je te veux, je te veux encore dans ma présence. Je te veux encore dans ma maison. Viens, 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 car je ne t'ai pas rejeté. Peu importe ce que tu as fait. Oui, je sais, tu ne supportes pas toi-même ce que tu as fait. Mais je t'aime quand même. Je t'aime malgré ça. Oui, je t'aime. Viens, 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 je t'aime. Viens, je t'aime. Viens, je t'aime. Et je veux te restaurer.
Si vous avez été touché par ce message, vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter, s'il vous plaît, au numéro 089 80 48 889 ou le 099 93 61 670. Retrouvez-nous sur le site www.cmphiladelphie.org. Venez communier avec nous sur l'avenue de la Science au numéro 4935, référence École La Puisette, Kinshasa Gombe. Que Dieu vous bénisse.